Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Aujourd'hui, nous allons parler de générosité envers les ennemis et surtout, si on te frappe sur une joue, tend l'autre joue. Moi, j'avoue personnellement que ça me pose un problème, mais je pense que vous êtes aussi dans le même cas. Nous allons donc commencer par lire ce texte dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 27 à 38. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Acquittez et vous serez acquitté. Donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous.
Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre joue. Tout le monde connaît cette phrase, même les non-croyants, qui en profitent d'ailleurs pour sourire et traiter la religion chrétienne de douce utopie. Et vous, que pensez-vous de ce commandement?
Si nous suivons les uns et les autres ce commandement à la lettre, je pourrais vous gifler les uns après les autres. Est-ce que vous vous ferez une joie, un plaisir de me tendre l'autre joue? Si vous suivez ce commandement à la lettre, je devrais lire sur vos visages un sourire radieux. On peut aussi inverser les rôles. Si à la suite de ce discours, Vous venez me montrer votre dextérité du poignet et la force de votre avant-bras. Est-ce que je vais tendre la première puis la seconde joue? Ça, c'est une question.
Or, si nous voulons être fidèles à l'Évangile, disciples de Jésus-Christ, ne devons-nous pas nous laisser frapper? Si nous suivons ce commandement à la lettre, c'est bien ce qui nous est demandé. Cela étant, avant d'être disciples de Jésus-Christ, si nous réfléchissons raisonnablement à cette demande, nous pouvons tout aussi raisonnablement douter de sa performance et de son efficacité. En effet, est-ce que le fait de recevoir des gifles va aider notre personnalité à se construire, va nous fortifier notre conscience d'être?
Tu reçois des gifles? Eh bien, laisse-toi faire. Longe encore mieux les murs, rampe toujours plus, toujours plus. Si vous dites cela à vos enfants, mis à part les notes de médecin et les factures des magasins de vêtements, vous aurez un autre problème, c'est celui de leur identité.
Comment voulez-vous que votre enfant grandisse, s'épanouisse? Comment voulez-vous que vos rêves de le voir bien sous tout rapport, c'est-à-dire bon père et bonne mère plus tard, bon époux et bonne épouse, bon citoyen, bonne citoyenne, comment voulez-vous que ces rêves légitimes deviennent réalité? La Bible nous imposerait-elle des lois allant à l'encontre de l'épanouissement individuel? Que faire dans la cellule familiale?
Votre enfant donne un coup de poing? L'invitez-vous à continuer? Il arrache la tapisserie, il entaille les fauteuils, il peut jeter des assiettes par la fenêtre? Applaudissez-vous avec enthousiasme? Nous avons donc face à nous, devant nous, ce commandement connu du grand public qui ne contient aucune ambiguïté. Lorsque tu es giflé, tends l'autre joue. Et en même temps, nous avons ce questionnement sur sa performance, son efficacité, son bien fondé. Comment éduquer nos enfants sans les confronter à des refus?
Radio Grand Ciel et Église, émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, nous vous parlons ce matin d'un commandement frappant. Les intermèdes musicaux sont des extraits d'adagio, d'abord de Pachelbel, puis Mozart, il y aura aussi Villa-Lobos et Jean-Sébastien Bach. Donc revenons à ce commandement, nous devons creuser, penser cette apparente contradiction, ce non-sens flagrant, en élargissant un peu le champ de notre réflexion et nous pencher sur la Bible dans son entier, je veux dire sur le rapport que nous avons avec la Bible. Les protestants donnent, plus que les autres communautés chrétiennes, un rôle fondateur premier à la Bible. la Bible qui est la source et la référence de notre foi. Or, la Bible contient elle aussi d'apparentes contradictions et des manques de cohérence. Voici notre commandement de ce matin, tant l'autre joue. Et pourtant, nous pourrons lire dans l'Évangile selon Jean le passage où Jésus s'énerve quelque peu face aux marchands du temple.
En effet, Jean, dans son Évangile, au chapitre 2, verset 15, nous relate « Alors Jésus fait un fouet avec des cordes. Il chasse du temple tous ces gens-là. Il jette par terre les pièces de ceux qui changent l'argent et il renverse leur table. » Pour un convaincu de la non-violence, c'est une réaction un peu gênante. Pour un rabbin qui nous exhorte à ce « tant l'autre joue », cela fait un peu mauvais genre, vous en conviendrez. Alors, je crois que toutes nos réflexions, toutes nos réactions face à la Bible sont conditionnées par les relations de lecture que nous avons avec elle.
Pour paraître simple, je distinguerai deux types de lecture de la Bible. Soit une lecture qui se veut idéale, pure, vraie, qui est à mon sens mythique, fondamentaliste, car elle croit prendre en compte l'ensemble de la Bible. Soit une lecture, au contraire, qui admet sa partialité, sa finitude, mais qui aspire néanmoins à construire et à fortifier notre foi.
La première considère que chaque idée émise, chaque affirmation, comme chaque mot, chaque signe de ponctuation, ont été voulus, décidés par Dieu. Dieu a décidé de la totalité de la révélation écrite. La Bible serait une communication directe de Dieu à l'homme. La conséquence est que toutes les pages de la Bible doivent être lues, appréciées, commentées avec le même intérêt. Toutes les pages de la Bible sont mises sur le même plan, puisque toutes les pages sont paroles de Dieu.
Et c'est ainsi que certaines sectes expliquent qu'ils ne mangent pas de sang, parce que c'est inscrit dans le livre du Lévitique. La lecture fondamentaliste, c'est tout ou rien. C'est prendre, lire la Bible avec les mêmes lunettes de la première à la dernière page. Cette lecture est, à mon point de vue, une erreur, un leurre.
Un leurre, parce que nous ne recevons pas toute la Bible sur le même plan. Tel et tel enseignement vont être plus importants pour nous que tel ou tel autre. Telle notion va nous parler et d'autres pas. Avant Schweitzer, c'est-à-dire au début du XXe siècle, nous n'avions pas pris conscience de l'importance donnée par Jésus-Christ au royaume de Dieu. Et c'est Schweitzer qui a fait remarquer que beaucoup de propos de Jésus étaient préoccupés par le royaume. Et nous agissons, nous lisons la Bible avec ce que nous sommes. Et notre entité conduit une lecture propre, personnelle. Chaque page n'a donc pas pour nous la même dimension. Et c'est une absurdité de faire comme si.
Et cette façon de lire la Bible est un leurre aussi, car même si la Bible est inspirée par Dieu, entre l'Ancien Testament et Dieu, il y a les prophètes, les apocalyptiens. Entre le Nouveau Testament et Dieu, il y a les évangélistes, il y a Paul, c'est-à-dire des hommes de chair et de sang. Des hommes qui ont leur propre structure mentale, leurs propres caractéristiques. Ce n'est pas pour rien que l'évangile selon Marc nous apparaît court et celui de Luc beaucoup plus fouillé.
Nous devons donc prendre en compte les caractéristiques de chacun, comme nous devons aussi prendre en compte la culture dans laquelle ils vivaient et non nous transformer en machines à lire. La lecture fondamentaliste est un leurre, parce qu'un canon regroupe une pluralité de textes, une pluralité de théologies. Le canon est une totalité. Ce tout est composé de textes qui forment un corps qui aspire à l'unité tout en restant hétérogène.
Thank you. Cela nous amène à vous proposer, bien sûr, une autre façon de lire la Bible. Cette façon reçoit la Bible comme un canon inspiré, mais qui soutient aussi que la parole de Dieu n'est pas la Bible, mais qu'elle est, comme le dit Karl Barth, contenue dans la Bible. Et cela accepte aussi deux autres évidences. D'une part, que le texte biblique est quelquefois lourdement humain, et que d'autre part, nous faisons nous aussi des choix. Nous ne sommes pas neutres dans notre lecture. Nous avons tous quelque part une idée sur Dieu, une théologie, et nous avons tous des versets, des paroles de Jésus, des livres bibliques que nous privilégions. C'est ainsi que Luther dira dans la préface au Nouveau Testament en 1522, l'évangile de Jean, les épîtres de Paul, notamment celle aux Romains et la première épître de Pierre, sont le véritable noyau, sont la moelle, dit Luther, de tous les autres livres.
Tout ceci m'amène à dire qu'il faut toujours et encore analyser notre rapport, notre lecture de la Bible, et qu'il faut être conscient que nous n'avons pas à jouer aux puristes parce que nous n'en sommes pas. Nous allons fermer la parenthèse. Si nous admettons que nous faisons cette dernière lecture, il faut aussi reconnaître les risques encourus. Le principal est celui d'une distance, d'un écart entre l'esprit de l'Évangile et ce qui est pour nous fondamental, indispensable. Quels versets construisent la charpente de notre maison, de notre lecture ? Si vous sublimez, si vous rendez incontournables les commandements concernant la pureté et l'impureté du livre du Lévitique, n'êtes-vous pas dans l'erreur ? Alors peut se poser maintenant, après cette mise à plat, la place du texte d'aujourd'hui.
Comment devons-nous intégrer le « tant l'autre joue » dans notre lecture de la Bible ? Quelle place lui donner ? Première ou seconde ? Décisive ou dérisoire ? Si nous nous attachons à l'esprit de la Bible et de l'Évangile, comment articuler ce verset dans notre foi ?
Ce verset est en fait une loi. Comme dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, verset 29, « Voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme « Si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. » Ou « Ne jugez pas. » Ou « Aimez vos ennemis. » L'un des rôles de la loi est de montrer notre insuffisance, notre insignifiance. Nous n'arriverons jamais, même en faisant des œuvres du matin jusqu'au soir, à gagner notre salut.
Nous n'arriverons pas à atteindre une sorte d'état de quasi-perfection. Le salut, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'annonce que nos péchés sont pardonnés, qui nous libère des prisons de la culpabilité, du remords et du désarroi. Le salut, l'annonce de la bonne nouvelle, le pardon de Dieu de nos péchés, nous est donné gratuitement, sans condition, par Dieu. L'annonce du pardon est donnée par la grâce seule. Dieu veut nous que soyons des sortes de spéléologues de l'existence et non des fatalistes. Il nous pardonne, alors marchons. Tous ces commandements sont donc le signe que nous serons toujours insuffisants, mais que Dieu est là, et c'est l'un des rôles de la loi.
Ensuite, le Dieu que nous prêchons est d'abord le Dieu qui est du côté des vaincus. Il est le Dieu des démunis, des faibles, des béatitudes, heureux les pauvres. Cela ne veut pas dire heureux que vous soyez pauvres, heureux que vous n'ayez rien à manger, mais cela veut dire que Dieu est d'abord avec les pauvres. Et ce que vous ferez au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le ferez.
Dieu est d'abord du côté des sans-abri. C'est le Dieu de la crèche et de la croix. C'est le Dieu qui est présence et partage sur notre chemin, notamment aux heures de souffrance et d'épreuve. Dieu est d'abord le Dieu des démunis, des coléreux, des disgracieux. On peut se révolter, mais c'est ainsi. Comme le relevait le pasteur Laurent Gagnebin, dans tout l'évangile de Luc, Jésus déclare à 4 reprises « Ta foi t'a sauvé ».
Or, Jésus déclare « Ta foi t'a sauvé » à 4 fois, il s'adresse à des malades. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, le verset 50, une femme, une prostituée, versant des larmes et du parfum sur les pieds de Jésus au cours d'un repas chez Simon le pharisien. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, au verset 48, une autre femme, malade, considérée comme impure à cause d'une perte de sang, soignée en vain depuis des années, et touchant le bord du manteau de Jésus, elle est miraculeusement guérie. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, au verset 19, un lépreux samaritain, lui aussi impur, rejeté, étranger. Et c'est encore dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, au verset 42, un malade, un mendiant aveugle. Et Jésus annonce à ces 4 personnes, « Ta foi t'a sauvé ». Le Dieu que nous prêchons est d'abord celui qui nous dit « Les premiers seront les derniers ». En ayant présente ces 2 réalités, d'une part, la loi qui nous montre l'homme fini, limité, partiel et partial, imparfait. Et d'autre part, ce Dieu qui est d'abord avec les prostituées avant d'être avec les bonnes gens. Comment saisir ce commandement tant l'autre joue?
Je crois qu'il faut bien voir que l'évangile est une folie. Évangile comme folie. Pourquoi? Car tout le message de l'évangile tend vers un royaume. Royaume compris comme un état, peut-être un lieu. Nous allons vers ce royaume comme nous allons vers la loi. L'évangile est aussi révolutionnaire. Le critère de grandeur pour Dieu n'est pas le même que le nôtre. La grandeur est autre que le pouvoir qui s'impose. Elle n'est que puissance d'amour et de persuasion. Le royaume, c'est la nouvelle charte qui abolit tout rapport de force, donc tout désir d'acquérir ou de préserver des privilèges, pour seulement être avec et partager. Grandeur égale donc ici, dans l'évangile, puissance d'amour. Nous comprenons alors le « aimez vos ennemis », le « ne jugez pas ». Jésus nous décrit là un état de perfection, un état vers lequel nous devons tendre. Nous devons tendre à tendre l'autre joue.
Et il faut prêcher ce caractère complètement fou, complètement irrationnel, complètement révolutionnaire de l'évangile. Nous sommes d'abord les ouvriers d'un monde auquel nous ne pouvons humainement penser. Nous avons donc à trouver notre éthique, notre morale, à décider de nos conduites à partir de cette réalité évangélique. La seule raison humaine nous engloutit dans le factice, l'arbitraire, les fausses sécurités.
Alors bien sûr, il est vrai que nous ne pouvons pas vivre ce commandement tant l'autre joue à la lettre chaque seconde, car il est humainement insensé. Mais il est encore plus profond, encore plus riche, encore plus vrai que l'absence de cette grandeur de Dieu nous plonge dans l'obscurantisme le plus épais. Quelques régimes politiques fondés sur le bon sens humain, car il était, paraît-il, le seul bon sens valable, ont enflé l'orgueil de leur peuple et l'ont transformé en animal qui tue tout sur son passage. D'autres régimes politiques provoquent de la charpie.
Oui, il y a cette folie de l'évangile. La grandeur est autre que le pouvoir qui s'impose. La grandeur, notre grandeur, c'est notre puissance d'amour. C'est la puissance d'amour de Dieu. Et cette folie ouvre un nouvel espace de réalité, de dialogue, de discussion. Cette folie coupe, rompt, brise notre réalité quotidienne et lui donne vie, la transfigure. Devenons donc un peu plus fous dans nos projets paroissiaux ou dans nos projets de vie personnelle. Le message de l'Évangile est l'annonce d'une autre approche du monde et des hommes. Et c'est une belle histoire, c'est vrai. C'est celle d'un Dieu qui se fait homme pour nous dépoussiérer, pour nous mettre en marche. Et c'est maintenant à nous de nous l'approprier. Amen. Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres, et nous serions très heureux de vous y accueillir. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.